On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Corinne Lepage est une femme politique française issue de la société civile. Avocate, elle cofonde un cabinet spécialisé en environnement et droit public. Militante associative, elle cofonde le CRIGEN. En 1995, elle entre au gouvernement français comme ministre de l'Environnement. Elle contribue à la création du comité prévention et précaution et met en place la première stratégie nationale sur le développement durable. Elle obtient la sortie de la puissance publique du comité amiante, le non-redémarrage de la centrale Superphénix et un moratoire sur les OGM. Le 4 octobre 2011, elle annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Et le 28 juin 2014, Corinne Lepage est avec nous aux Amanins pour présenter sa vision de ce que pourrait être la transition. Bonjour Corinne, nous voilà donc aujourd'hui aux Amanins. Comment définiriez-vous ce lieu ?
Au risque de peut-être surprendre, je dirais que pour moi c'est un peu avant-gardiste. C'est-à-dire que c'est une manière de vivre, de produire, d'être ensemble, qui anticipe ce que nous pourrions faire ensemble, les uns et les autres. Donc je trouve pas du tout que ce soit quelque chose qui regarde vers le passé, je trouve au contraire que c'est une démarche qui regarde formidablement vers l'avenir.
J'aimerais qu'on revienne sur une histoire, l'histoire qui est beaucoup bien connue ici, l'histoire du colibri. Est-ce que vous pourriez me la raconter et me dire, selon vous, quel est cet incendie ? Qu'est-ce qui brûle ?
Oh, qu'est-ce qui brûle ? C'est la terre qui brûle. C'est pour moi, l'histoire des colibris, elle est associée étroitement à Pierre Rabhi et à sa démarche. Et ce mouvement formidable qu'il a lancé, qui aujourd'hui est probablement un de ceux qui, en France, rassemble plus de monde, beaucoup plus que les partis politiques, y compris les plus grands, de gens qui ont à la fois chevillé au corps le sens des choses et de la vie, et en même temps une formidable envie de faire. C'est, pour moi, c'est ça, les colibris.
La forêt brûle, le petit oiseau est là. Avec sa goutte d'eau, il essaye d'éteindre l'incendie. Il y a un tatou qui passe, qui lui dit « Mais colibri, arrête, ce que tu fais, c'est juste complètement inutile. » Et il répond « Je sais, mais moi, je fais ma part. » Et c'est vrai, quand on se retrouve dans des lieux comme celui-là, on se rend compte que chacun vient avec sa part et essaye de changer les choses à sa mesure. Donc, quelle serait votre part ?
Oh, je crois qu'il faut être très modeste, parce que chaque individu n'a qu'une faculté d'action qui est limitée. Moi, j'ai eu quand même la chance dans ma vie de pouvoir d'abord travailler sur des fronts assez divers, celui du métier d'avocat, qui m'a conduit en près de 40 ans de barreau à m'attaquer à beaucoup de très belles causes écologiques, puisque j'ai défendu notamment les grandes marées noires, de la Mocadise et de l'Erika, prestige aussi, mais enfin, c'était moins intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur les OGM, j'ai travaillé beaucoup sur le nucléaire. Maintenant, je travaille sur les algues vertes, je travaille sur toute une série de sujets comme ça. J'ai eu la chance de faire de la politique, mais je dirais de manière très iconoclaste, puisque je ne l'ai toujours fait qu'au nom de la société civile, et pas encarté vraiment dans un parti politique, même si j'ai créé un mouvement politique qui s'appelle Cap 21, mais qui, je dirais, est très marginal par rapport au mouvement politique traditionnel, avec les forces et les faiblesses que cela implique. L'indépendance est une très grande force, parce que cela permet de ne pas s'écarter de ce que l'on estime être la vérité, ne pas tricher, ne pas être dans le mensonge, dans la supercherie. Mais dans le même temps, c'est une extrême faiblesse, c'est qu'on a un système politique qui n'est pas fait du tout pour ça, et qui est fait au contraire pour écarter des gens qui suivent ce type de démarche. Donc j'ai eu la chance quand même de pouvoir, malgré ce choix, occuper des postes importants, que ce soit ministre ou que ce soit député européen, et élu local aussi, puisque j'ai été élu local pendant 12 ans. Et puis je dirais aussi, j'apporte une petite pierre sur le front associatif, J'ai créé avec Jean-Marie Pelt et Julien Xerel Nil Krigène en 1997-98. Et donc je suis très associée à tout ce qui se fait sur l'expertise sur les OGM. Je participe également à des associations qui se battent contre la corruption, parce que c'est pour moi un sujet très important, et j'ai été marraine d'Anticor, et je suis administrateur de Transparency International depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, vous voyez, ça fait beaucoup de combats.
Beaucoup de combats et beaucoup de valeurs que vous portez. Qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de défendre ces valeurs-là? C'est par rapport à cette planète qui est en train de brûler?
Je dirais que c'est... Ça va au-delà de la... Enfin, c'est très... Ça peut paraître idiot de dire ça va au-delà de la planète, parce que la planète, c'est quand même l'essentiel, c'est la vie. Mais je dirais que pour moi, c'est une certaine une conviction de ce que devrait être l'humanisme. C'est-à-dire l'amour de l'homme, l'amour des autres, la prééminence de l'humain sur tout le reste, un amour éperdu de la justice. J'en ai fait mon métier d'ailleurs. Je ne supporte pas la justice. Alors vous allez me dire, je ne dois pas supporter grand-chose dans ce monde. Ben oui, c'est ce qui fait que je suis sur beaucoup de combats, parce que tout ce qui est du d'ordre de la discrimination, de la malhonnêteté, du combat du pot de terre contre le pot de fer, sont des, pour moi des choses essentielles au sens étymologique du terme.
Et on arrive à gagner ces combats quand on se bat contre des géants de l'économie?
On en gagne quelques-uns. Je dirais que, à la limite, on en gagne plus par le droit que par la politique, vous savez. Les combats les plus importants que j'ai pu gagner, c'est quand même dans des prétoires. Hein. En faisant condamner Total, par exemple, pour les Ricard, et reconnaître le préjudice écologique. C'est pas en tant que député que je l'ai fait, ni en tant que ministre.
On va peut-être faire la différenciation entre la politique et la justice. Comment est-ce que vous définiriez? Là, on est dans une école, on est dans une classe pour les enfants. Donc on va s'adresser à ces enfants, on va dire que j'ai 4 ans. Il y a aussi tout un axe autour de l'éducation ici aux Amanins. Donc expliquez à un enfant, qu'est-ce que c'est que la politique et qu'est-ce que c'est que la justice?
La politique, c'est régler les affaires qui te concernent. Il y a une politique dans cette classe. Savoir comment... on s'assied, comment on travaille, les règles du jeu, comment la maîtresse va noter ou pas noter. Voilà, ça fait partie de la politique, c'est tes affaires. C'est gérer ensemble ces affaires à tous les niveaux. Alors au niveau, ça peut commencer avec l'école, puis tu continues avec la ville où tu habites, puis tu continues avec la région où est ta ville, puis tu continues avec le pays dans lequel est ta région, et ainsi de suite. Ça, c'est la politique.
Donc créer quelque part des règles pour faire fonctionner un système.
Oui, et le faire fonctionner au mieux possible et en fonction des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pour un enfant de 4 ans, je ne dirais pas priorité. Je dirais, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas important? Ben, faut se mettre d'accord ensemble sur ce qui est le plus important puis ce qui est le moins important. Ça s'appelle des priorités. Ça, c'est la politique. La justice devrait être un des objectifs de la politique. C'est-à-dire organiser au mieux ta classe... Il faut que ça soit juste, mais il faut aussi que ça soit efficace, que ça rende service, c'est-à-dire que ça t'apprenne ce que tu as à savoir pour avoir une belle vie d'homme ou de femme. Voilà. Si je parlais pas à un enfant, mais à un adulte, je conviendrais avec lui qu'il n'y a aujourd'hui pas grand rapport entre la justice et la politique. Ou tout au moins, les deux ne sont pas forcément compatibles. Je ne dirais pas qu'il n'y ait pas de rapport, mais ils ne sont pas compatibles. Et que on est dans un monde de profondément injuste et probablement de plus en plus injuste. Et ça, ce n'est pas tout à fait tolérable.
Vous parliez avant de Jean-Marie Pelt, avec qui vous avez créé une association. Donc on lui fait un constat du monde, c'est plutôt une vision assez négative.
Je ne dirais pas qu'il est pessimiste. Jean-Marie, c'est quand même lui qui a écrit « C'est vert et ça marche ». C'est un homme profondément croyant. Donc, qui est dans l'espérance, de la foi. Bon, c'est son affaire. On peut être croyant ou pas croyant. Ça, c'est une affaire pour chacun. Donc, je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui est, a priori, dans le pessimisme. Mais, en revanche, parce qu'il est profondément humaniste, il partage l'inquiétude qui est celle que nous partageons de manière assez nombreuse, hein, sur la dégradation de l'humain dans nos sociétés. et sur le fait que ce qui devrait primer, bon, c'est d'abord la survie, on en est très loin avec ce qui se passe sur le plan écologique, à minima l'équité entre les humains, et je suis déjà en régression par rapport à l'égalité quand je dis l'équité, mais ce serait déjà un minimum. Ensuite, la transformation du monde par les nouvelles technologies, et surtout la transformation de l'homme par les nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a des problèmes éthiques qui ne sont à peine abordés.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Voilà, donc je pense que l'humanité est en train de partir, ou tout au moins une partie de l'humanité est en train de partir sur des bases totalement différentes. Et puis il y a quand même cette organisation qui, moi, à la fois m'exaspère et m'angoisse considérablement. C'est la part prise par les très grands groupes financiers et économiques sur la vie des autres. Je ne suis pas une femme d'extrême gauche, hein, je suis plutôt une femme du centre, mais je dirais que l'expérience qui est maintenant la mienne me conduit franchement à penser que ce n'est pas une organisation acceptable, que la manière dont les grands lobbies préemptent la décision publique et s'opposent à l'intérêt général, c'est-à-dire du plus grand nombre, n'est pas concevable dans un système démocratique.
Mais comment est-ce qu'on va le changer, ce système? Quel est l'avenir? Comment ça va se passer dans les prochaines années, les prochaines générations?
Je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne ferai pas de pronostic. Mais je peux vous dire que ma conviction à moi, Maintenant, au stade où j'en suis, avec l'expérience qui est la mienne, de ces différentes vies de politique, professionnelle, associative, c'est que le changement, il vient de la base. Il ne viendra jamais du sommet. C'est impossible. Donc, c'est par les nouvelles organisations, et ce qui se passe aux Amanins est un très bon exemple, que nous sommes capables de mettre en place sur le terrain. Ensuite, par les réseaux, et ça, c'est l'aspect très positif des nouvelles technologies, que nous sommes en capacité de créer les uns avec les autres, que nous pourrons inverser les rapports de force. Si demain matin, les consommateurs décidaient qu'ils n'achetaient plus aucun produit Roundup, pour prendre cet exemple-là, aucun OGM, ben Monsanto, ils n'en vendraient plus. Ben oui.
C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, finalement. C'est nous, en tant que citoyens, si on mène un peu une réflexion sur l'endroit où on va placer ces euros, ben on peut les placer dans des circuits un peu plus raisonnés, plus responsables que dans d'autres.
Bien sûr. Alors, c'est un problème de formation, parce qu'il faut quand même un minimum de connaissances. C'est aussi un problème de pouvoir d'achat, parce que quand vous avez pas ce qu'il faut pour terminer le mois, ben vous ne vous posez pas trop la question de savoir si votre acte est intelligent ou pas. Vous vous posez la question de savoir si vous pouvez le faire ou pas. Compte tenu de ce que sont les besoins vitaux élémentaires de chacun d'entre nous. Mais je pense que c'est le changement de rapport de force, il ne pourra venir que de là. Il ne pourra venir que de cette nouvelle organisation que nous allons les uns et les autres progressivement expérimenter, et puis quand ça marchera, mettre en place et essaimer. Je crois beaucoup à l'essaimage.
Il y a aussi ce mot sur l'affiche, le mot cultiver. Hein, cultivons l'avenir. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait de cultiver? Qu'est-ce qu'on pourrait cultiver?
Je dirais que pour une grande partie, nous sommes en jachère. Pour refiler la métaphore, je pense que la première chose que nous avons à cultiver, c'est notre cerveau. Je veux dire par là, notre cerveau et notre cœur. C'est-à-dire à la fois la compréhension, la réflexion sur ce que l'on fait, sur la manière dont on le fait, sur la manière dont nous pourrions être chacun d'entre nous cohérents entre nos convictions et notre action. Et puis le cœur, parce qu'on est dans un monde très sec, dans lequel finalement, en dehors du faux semblant, du sentiment dégoulinant que l'on voit dans beaucoup de médias, la vraie relation à l'autre, la vraie générosité, le vrai don de soi, tout cela n'est plus du tout considéré comme une valeur cardinale. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup à cultiver.
C'est très beau ce que vous dites, mais et j'y crois quand je suis dans des lieux comme ça, comme les Amanins, où on est finalement une sorte de famille d'âmes, où on vient tous avec une idéologie relativement proche. On a vraiment envie d'essemer le plus largement possible, parce qu'on a l'impression d'avoir des valeurs qui sont bonnes pour l'homme et pour la Terre et pour la planète. Mais la planète, elle est globale. Il y a une interrelation des êtres vivants, des phénomènes. Et ici, on a peut-être une certaine conscience en Europe, parce qu'on fait partie des pays riches et développés. Cette conscience n'est peut-être pas forcément la même dans les pays, je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud. Et comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'on est quand même dans une locomotive qui nous traîne vers la mondialisation, vers le développement économique, le développement matériel, la croissance. Et c'est pour l'instant, j'ai l'impression, ça qui dirige le monde.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais on rejoint le problème des multinationales. D'abord, je pense qu'il faut qu'on perde, nous, les Européens, un certain modèle de pensée empreint d'une certaine condescendance à l'égard des pays du Sud. Quand vous regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, en Inde, en Chine, même en Chine, en Amérique du Sud, vous voyez non seulement qu'il y a beaucoup de communautés qui sont de même nature que celle qu'il y a ici, sans doute avec moins de moyens, mais avec exactement la même philosophie. Mais vous avez sur certains sujets des pays qui sont plutôt en avance sur nous, sur beaucoup de choses. Et notamment sur la conscience des limites. On donne beaucoup comme mauvais exemple la Chine. En disant la Chine, ils font n'importe quoi, ils créent une nouvelle usine à charbon toutes les semaines. Oui, enfin les Chinois, ils sont dans un tel univers de pollution qu'ils sont probablement un des pays au monde qui est en train de s'organiser pour avoir les règles les plus drastiques. Parce qu'ils sont arrivés au bout d'un modèle. Quand vous regardez la manière dont l'électricité solaire se développe dans un certain nombre de pays du Sud, que ce soit l'Afrique ou l'Inde, ou les téléphones portables. C'est-à-dire que tous ces pays sont en train de faire l'économie du passage par les grandes infrastructures par lesquelles nous sommes passés. C'est-à-dire qu'ils sont directement dans l'unité totalement décentralisée, que ce soit le four solaire, le chauffe-eau solaire, l'électricité solaire, ou et l'éolienne à l'occasion, et le portable, c'est-à-dire pas les grandes lignes qu'on passe. On voit bien qu'un certain nombre de gens commencent à avoir accès à des technologies finalement très contemporaines que nous avons mis des années et des années, nous, à acquérir. Donc je pense qu'il y a des modèles de développement qui sont profondément différents. Alors là où vous avez raison, c'est qu'on a probablement plus le sens de la finitude qu'ils ne l'ont dans les pays du Sud où ils ont au contraire la soif du rattrapage.
Vous dites finitude, c'est-à-dire arriver aux limites.
Arriver aux limites, c'est-à-dire on est des modèles quand même fatigués, usés, y compris de gouvernance. L'Europe patine. Nos jeunes les plus brillants ne restent pas en Europe mais partent ailleurs. Parce que le continent européen est un continent qui est en voie d'épuisement d'un modèle. Mais c'est aussi un continent avec une immense intelligence, une immense matière grise, beaucoup d'atouts. Et ensuite, c'est une volonté de reconstruire, de recréer, de recultiver, comme vous disiez tout à l'heure.
Qui roule sa bosse pour le pétrole. Les valeurs sûres, moi j'y crois plus. L'amour total, tout est perdu. Si tu t'en sors, c'est que t'as du bol. Nos pauvres vies sont en péril. On dépend tous d'un petit marché où nos tomates se vendent en baril. Le démocrate de l'outre-mer exécute l'homme à tout bout de champ. Depuis le méchant et son coton, depuis Panurge et nos moutons. J'ai perdu tous mes idéaux depuis que l'homme n'a plus de saison. Depuis que l'ego a pris le dessus sur le peu d'amour qui nous reste. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui foutent la merde. Entre les deux parties de golf, on fera des guerres qu'on a déjà vues. Les journalistes, les caméras sont toutes les mêmes qui sont déjà venues. On fera des films à Hollywood, le bien, le mal qui sera vaincu. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le dollar, sauvons Willy et son or noir. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que ces fous violeurs de terre. On fera des films pour quelques jeunes au pied du mur. Mon horizon, c'est ta prison, c'était peut-être ça leurs ambitions. On
On t'a fait croire que les droits de l'homme, c'était sûrement un homme de droite. Ma liberté, c'est la méfiance, c'est tout ce que j'ai pour filer droit. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui votent la haine. Si tu me dis droite, je te dirai gauche. Si tu me dis gauche, je dirai l'extrême. Je voterai pour ceux qui votent la vie plutôt que pour ceux qui foutent la merde.
Parler de la transition avec Pierre Habib, c'est un bonheur de discuter avec Pierre Habib.
Donc la transition, ce serait quoi, la transition énergétique? Depuis combien de temps on entend parler de la transition? C'est un mot que j'entends beaucoup aujourd'hui.
Oui, c'est un mot fourre-tout comme développement durable il y a 10 ans. En fait, c'est le changement de société dont on parle. Mais la transition, à mon avis, est un mot ambigu et dangereux parce que quand on dit transition, ça veut dire qu'on va d'un état vers un autre état. On ne sait absolument pas quel est le nouvel état. Donc parler de transition dans ces cas-là, c'est assez difficile quand même, à mon avis.
Qu'est-ce que vous auriez envie de partager, de dire aux jeunes qui, je ne sais pas, j'ai 20 ans, je ne me retrouve pas dans la vie politique, dans le message politique, j'aimerais savoir ce que je peux faire de ma vie. Je cherche ma voie, comme beaucoup de monde finalement. Quel pourrait être le conseil que vous auriez à donner à celui qui construit les prochaines années?
D'abord, oublie la politique telle que tu la vois aujourd'hui parce qu'elle est en train de mourir. Donc, ce n'est pas la peine de t'y intéresser. Attends que ça ait changé pour voir ce que tu peux faire. Aie confiance en toi. Comme aurait dit le pape, Jean XXIII, n'aie pas peur. Cherche ce que tu aimes. Et essaye de construire une vie cohérente entre tes convictions et ce que tu fais. Et tu seras bien. Et si tu es bien, tu réussiras. Ensuite, la vie est d'éternel choix. On ne peut pas être d'une pureté absolue, ça n'existe pas. Alors on est un saint, on va dans un monastère et puis on y reste. Donc la question, à mon sens, c'est d'arriver à trouver les compromis, mais ne jamais accepter les compromissions.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
We are surrendered daily.